Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Alors, ce sera l'occasion de nous souhaiter une bonne année parce que c'est cette semaine. Donc un petit peu en avance, mais quand même, bonne année. Je suis le frère Paul Adrien, je suis prêtre religieux catholique et je vous propose de voir, parce qu'aujourd'hui pour les chrétiens, c'est le dimanche de la Sainte Famille. Je vous propose de voir une ou deux traditions éducatives étonnantes à travers les religions avant de parler de l'évangile du jour. Commençons par la première que vous connaissez certainement, mais enfin, vu que l'évangile en parle, ou en tout cas, on a l'impression qu'il en parle, ben on va commencer par elle. C'est la bar mitzvah. Quand on a 12-13 ans, pour les garçons, on fait une pratique, un rite de passage qu'on appelle la bar mitzvah, bar fils, mitzvah les commandements, bar mitzvah les fils de commandements, ce qui devient pour les filles la bat mitzvah, les filles de la loi du commandement. Pour le faire, il convient de lire une première fois publiquement la Torah à la synagogue. Et ce faisant, vous parvenez à la maturité spirituelle, vous êtes officiellement reconnu pour un adulte. Est-ce que l'évangile d'aujourd'hui en parle? En tout cas, on a Jésus qui a 12 ans et qui est au temple. La bar mitzvah est quand même un tout petit peu plus tardive, mais vous retenez quand même l'idée, c'était qu'on devenait un adulte quand on avait 12-13 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie en ce temps-là était beaucoup plus restreinte. Nouveau rite de passage, ce que l'on appelle la quête de vision, la vision quest, qui est pratiqué par les peuples autochtones d'Amérique du Nord et qui est pratiqué dans plusieurs tribus amérindiennes comme les Lakotas. C'est un rite qui consiste pour un adolescent ou une adolescente en une retraite en pleine nature, souvent sur une montagne ou un autre lieu isolé, où vous allez passer plusieurs jours seul, sans nourriture, sans compagnie humaine. C'est un moment de jeûne et de prière intense où vous êtes censé pouvoir vous connecter avec la nature et recevoir une révélation personnelle qui va caractériser votre vie. Par exemple, dans les visions que l'on trouve fréquemment décrites, vous avez l'aigle. L'aigle que les gens voient dans leurs rêves, dans leurs visions, qui devient ici un symbole de force, de clairvoyance et de liberté. Vous pouvez aussi avoir la vision de l'animal totem. L'animal totem, ça peut être un ours, un loup, un cerf, même un bison. Et ça veut dire que l'animal ici va être un guide spirituel qui va vous apparaître dans les rêves ou sous la forme de signes naturels et qui ensuite va vous guider tout le reste de votre vie. Vous pouvez encore avoir des visions comme la tempête ou le feu sacré ou bien encore des visions comme les ancêtres qui vous connectent avec les générations avant vous. Mais l'idée centrale, c'est qu'il faut se connecter à un monde surnaturel pour rejoindre le monde adulte, d'où la Vision Quest. Nouveau rite de passage, cette fois-ci dans l'hindouisme, ce qu'on appelle l'Upanayana, qui est un rite sacré pour les jeunes garçons issus des trois premières castes les plus supérieures. Lors de la cérémonie de l'Upanayana, l'enfant reçoit le Yajnopavita. Le Yajnopavita, c'est un fil sacré qui est composé de trois fils entrelacés qui symbolisent les trois promesses. Obéir à la connaissance, respecter les ancêtres et entretenir la dévotion envers Dieu. Et comme vous vous promettez ces trois vœux, vous pouvez avoir le fil sacré que vous allez porter en permanence pour vous rappeler votre vocation spirituelle et votre engagement à vivre selon les principes de l'hindouisme. Et à l'issue de l'Upanayana, l'enfant devient un brahmachari, c'est-à-dire un étudiant spirituel qui s'engage dans l'étude des Védas sous la direction d'un gourou. Avec ce fil que vous allez porter sur le bras droit, vient aussi des rituels que vous promettez de pratiquer. Par exemple, les prières, des prières que vous allez réaliser trois fois par jour, au lever du soleil, à midi, dans lesquelles vous allez pratiquer des rituels d'ablution, de purification, dans lesquels vous allez réciter des mantras et qui vous permettent de rythmer votre journée pour arriver à l'éveil spirituel. Après vous avoir parlé de ces quelques rituels de passage à l'état adulte, je vous propose maintenant de passer à la lecture de l'évangile du jour, que nous commenterons ensuite. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume, et à la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et si je vous disais que le passage que vous veniez d'entendre était un manuel d'éducation ? Je vous accorde que c'est pas évident à le voir dès la lecture. Mais regardez. Par exemple, premier principe éducatif. Encourager la pratique de la foi dans la sphère familiale. Là, c'est Marie et Joseph qui vont chaque année à Jérusalem pour Pâques et qui font de ce grand rassemblement un événement familial. Ils étaient d'ailleurs pas les seuls, c'était toutes les familles juives qui le pratiquaient. Ben ça n'a l'air de rien, mais ça marche. Ça n'a l'air de rien, mais ça, par exemple, encourager la pratique de la foi dès le jeune âge, au sein de la famille, c'est un des très, très, très grands principes éducatifs. Si je vous disais, par exemple, que dans les sondages religieux, on a fait des sondages aux États-Unis pour voir quelles étaient les communautés qui arrivaient à transmettre le mieux la foi de génération en génération. Ben, de manière claire, les communautés qui arrivent à mieux transmettre la foi aux générations suivantes sont les communautés où l'on pratique la foi à la maison. Vous pouvez penser à des rites simples tels que le bénédicité, tels que le fait d'avoir une crèche quand c'est l'Avent, tels que le fait de pratiquer en famille le carême. Ben, ramener la pratique religieuse à la maison, ça permet de mieux l'intégrer dans la vie courante, ça permet de montrer aux enfants que c'est important pour les parents, et de fait, les taux de succession de la foi, c'est du simple au double. Deuxième principe que vous pourriez trouver dans ce texte, alors je suis d'accord pour dire qu'il est assez light et assez souple ici. Respecter l'autonomie tout en restant vigilant. Alors, pour l'autonomie, ça, il n'y a pas de problème, on l'a. Et on a bien senti que les parents de Jésus n'étaient pas tout le temps sur son dos, à ne même pas savoir où est-ce qu'il dort et où est-ce qu'il est. Alors, vous me direz que là, vous trouvez plutôt les parents de Jésus singulièrement laxistes. En même temps, on connaît pas Jésus et ça se trouve Jésus ne leur avait jamais donné aucune raison de s'inquiéter ou alors que ce n'était pas la première fois qu'il n'était pas à la maison pendant une ou deux journées que ça s'était toujours bien passé. C'est pas, si vous voulez, c'est une négligence contrôlée. Troisième principe, favoriser le questionnement personnel. Ah là, de manière claire, vous trouvez Jésus dans le temple qui est engagé dans un échange profond avec les docteurs de la loi. Ce qui veut donc dire que Jésus a réussi à se frayer un accès jusqu'aux sadducéens, aux pharisiens, jusqu'aux plus hautes sommités. Donc par exemple, si vous avez des enfants, une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai parlé avec mon enfant pour lui poser des questions et pour que lui me pose les siennes ? Ça n'a l'air de rien, mais je me souviens de chacune des conversations que j'ai eues avec mes parents quand on parlait de sujets graves comme le sens de la vie, comme la mort. C'était pas tout le temps, toujours partout, mais j'ai toujours apprécié que mes parents me laissent de la place pour me poser des questions et qu'ils avaient leurs réponses et que je les trouvais parfois convaincantes et parfois je ne les trouvais pas convaincantes. Je reviens toujours à mon sondage sur la manière de transmettre la foi. On s'est aperçu que tous ceux qui arrivaient à transmettre la foi, c'était aussi ceux qui arrivaient à avoir des moments privilégiés pour parler de sujets religieux. L'exemple parfait, c'est quand vous êtes dans la voiture, parce que là, tout le monde regarde dans la même direction. La voiture, c'est vraiment l'exemple parfait pour parler de grands sujets. Par exemple, si jamais vous parlez une fois religion par semaine avec votre enfant, bah ça fait plus 15% dans la transmission de la foi. C'est peut-être bête, hein. Alors après, c'est pas tout le temps, toujours partout, c'est pas la peine de forcer les conversations, et il faut connaître le rythme qui est capable de supporter votre enfant. Encore un autre principe que vous pouvez trouver dans ce texte, ça fera quand même le quatrième, hein, c'est pas rien à la fin. Faire preuve de compréhension et de dialogue devant les incompréhensions. Bah, les incompréhensions, là on le voit tout de suite, hein, c'est les parents de Jésus qui le retrouvent, Jésus dans le temple au bout de 3 jours et qui ont eu la peur de leur vie et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais vous voyez la manière dont Marie réagit. Marie ne lui fait pas une remontrance verte, elle exprime sa souffrance face à l'attitude de Jésus. Alors parfois aussi, hein, il faut taper du poing sur la table. Parfois, c'est une chose d'exprimer sa souffrance, et puis parfois, c'est autre chose de dire « mon coco, là, ça va bien, il y a des bornes à pas dépasser ». Mais en l'occurrence, là, vous êtes devant un cas de figure, Marie comprend pas très bien ce qui s'est passé, et elle est déroutée. Et quand vous êtes dérouté par votre enfant, ben la première réaction, c'est peut-être pas une réaction où vous exprimez votre colère, mais où plutôt où vous exprimez votre incompréhension. Et vous voyez que d'ailleurs, Jésus répond avec douceur et honnêteté. Eh bien, vous voyez, ça, mine de rien, dans ce texte-là, ça nous fait déjà au moins quatre principes d'éducation. Encourager la pratique de la foi à la maison, respecter l'autonomie de l'enfant tout en restant vigilant, favoriser la quête de la connaissance et ne pas hésiter à le questionner, et faire preuve de compréhension en face des incompréhensions. On pourrait en rajouter un cinquième, vous avez le droit aussi d'être exigeant. Simplement, quand on est exigeant, notamment en matière religieuse, pour demander à l'enfant de pratiquer sa foi, parce que vous êtes en train de l'éduquer religieusement, il faut être honnête et sincère et montrer que vous aussi, vous pratiquez. Bon, bah avec ça, je vous assure qu'en fait, statistique à l'appui, vous pouvez passer d'un taux de transmission de la foi de 30% à 70%. Donc mes petits commentaires, qui n'ont l'air de rien, en fait, ils ont fait leur preuve. Allez, courage, les enfants, c'est pas toujours facile. Eh bien, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bons préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Bon dimanche.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.